dissonance.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Centrafrique.
Aujourd'hui, en compagnie de Jean Vaz Aranzaez, fils de libertaire espagnol, nous allons découvrir une page bien plus qu'oubliée de l'histoire, une page falsifiée, une page arrachée et presque enterrée par l'histoire dite officielle.
En 1951, Albert Camus écrivait.
Alors, le 19 juillet 1936 sera aussi l'une des dates de la deuxième révolution du siècle, celle qui prend sa source dans la Commune de Paris, qui chemine toujours sous les apparences de la défaite, mais qui n'a pas encore fini de secouer le monde et qui, pour finir, portera l'homme plus loin que n'a pu le faire la révolution de 17. Nourrie par l'Espagne et, en général, par le génie libertaire, elle nous rendra, un jour, une Espagne et une Europe, et avec elle de nouvelles tâches et des combats enfin à ciel ouvert. Ceci, du moins, c'est notre espoir et nos raisons de lutter. Albert Camus.
Nous n'avons pas le moins du monde peur des ruines. Nous allons hériter de la terre. Nous portons un monde nouveau, là, dans nos cœurs. Et ce monde grandit en cette minute même.
Palomita con pico de oro se puso a buscar. La estrellita que estaba apagada, a que brilla de nuevo podamos amar.
Aujourd'hui, nous qui pensions que la guerre civile espagnole se limitait aux mots franquisme, troupes républicaines et brigade internationale, nous allons découvrir qu'une révolution sociale a existé il y a tout juste 80 ans de l'autre côté des Pyrénées.
Donc il y a quelques repères qui permettent aujourd'hui quand même, pour qui voudrait s'intéresser un peu, qui permettent de mieux connaître ce qu'a été cette révolution sociale, dont je répète encore une fois, parce qu'on a tendance à la passer par pertes et profits de la guerre, qu'elle a eu lieu, qu'elle s'est faite, et que c'est la seule expérience profondément révolutionnaire qui s'est faite au monde.
Aujourd'hui, nous qui nous interrogions sur cet événement à travers la timide évocation faite par Lydie Salvert dans son livre « Pas pleurer » prix Goncourt 2014, ou après avoir vu le film « Land and Freedom » de Ken Loach, nous allons découvrir comment l'URSS et les forces staliniennes espagnoles ont mis fin à cette épopée.
Ça n'a rien à voir avec la révolution soviétique, le maoïsme, etc. Donc c'est quelque chose d'assez unique et qui mérite d'être connu, même si les contextes aujourd'hui, effectivement, sont pas tellement favorables pour qu'on puisse envisager l'installation du communisme libertaire. Mais les idées cheminent, ces idées cheminent.
Aujourd'hui, un écho au livre de George Orwell, Hommage à la Catalogne, et au dernier reportage de Patrick Rothman, diffusé il y a quelques semaines sur Arte et intitulé La tragédie des brigades internationales, Jean Vaz Aranzaez, héritier de cette histoire libertaire espagnole, va évoquer pour nous ce que fut la seule expérience profondément révolutionnaire qui s'est faite au monde.
Quand on voit tous les mouvements qui sont très horizontaux, je pense à Nuit Debout, tout ça, à tous ces derniers mouvements, on peut penser que cette fermentation horizontale, elle est quelque part d'inspiration, là aussi, libertaire. Et par conséquent, il faut donner à connaître cette révolution, il faut donner à connaître ces idées qui se sont toujours basées sur la solidarité et l'appui mutuel. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire.
Que tanto y tanto y tanto llorar. La palomita con pico de oro se puso a buscar. A la estrellita que estaba apagada. A que brilla de nuevo podamos amar. A que brilla de nuevo podamos amar.
Dissonance.
Jean Vaz Aranzaez
sur Radio Centrafrique.
Il y a 80 ans, donc le 18 juillet 36, Le soulèvement d'une partie de l'armée espagnole, soutenue par l'Espagne noire, réactionnaire et catholique et fasciste, marque le début d'une guerre civile qui va durer presque 3 ans. La plupart des historiens ont eu tendance en effet à banaliser le conflit en le réduisant à un affrontement classique gauche-droite, en niant la singularité de l'événement, sa dimension éminemment révolutionnaire et le rôle déterminant qu'il joue dans l'anarcho-syndicalisme. Bien que combattu à mort par le franquisme pendant la guerre et la dictature, l'anarchisme, mouvement de masse spécifiquement espagnol, ne sera jamais nommé en tant que tel. Il sera amalgamé dans la lutte contre le communisme international venu de l'étranger, ce qui en pleine guerre froide fera pleuvoir sur l'Espagne des millions de dollars. De la même manière, la transition du franquisme à une démocratie représentative s'est construite sur une inacceptable loi d'amnistie et un pacte de silence et d'oubli voulu par la droite, héritière du franquisme, le Parti socialiste et le Parti communiste post-stalinien recyclé, avec bien sûr la négation délibérée du projet révolutionnaire dont le mouvement ouvrier avait été porteur et artisan.
Mais Jean, depuis quand est apparu l'anarchisme en Espagne et que représentait cette force, ce courant d'idées?
L'anarchisme organisé est présent en Espagne donc depuis la création en 1870 de la Fédération régionale espagnole de l'Internationale. En 1910 se crée la Confédération nationale du travail, la CNT, dont le programme est clairement révolutionnaire et vise à instaurer le communisme libertaire, c'est-à-dire une autre société en rupture avec le capitalisme. C'est une organisation originale, cette CNT, parce qu'elle rassemble dans un large éventail aussi bien des ouvriers que des paysans. Et en 1930, on compte en Espagne 2 millions d'ouvriers et 2 millions de paysans, plus les journaliers ou les brassiers sans terre. En 1927, en réunissant l'Union anarchiste portugaise et la Fédération nationale de groupes anarchistes d'Espagne, se crée à Valence la Fédération anarchiste ibérique, la FAI, basée sur de petits groupes d'affinités d'activistes autonomes, parmi les plus connus Nosotros, Los Solidarios, avec entre autres Durruti, Ascaso, García Oliver, Jover, etc. Internationaliste et anti-étatique, la FAI conçoit l'insurrection anticapitaliste comme un moyen dont le but est l'instauration du communisme libertaire. Elle atteindra, dit-on, les 100 000 adhérents en 1936.
Mais au sein des forces de gauche, Jean, est-ce qu'il n'y avait que les anarchistes ou il y avait d'autres composantes?
Non. Il existe bien sûr des forces concurrentes, avec par exemple, dès 1888, la création de l'Union Générale des Travailleurs, l'UGT, qui est un syndicat lié au Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, le PSOE, créé la même année d'ailleurs. Ensuite, ce qui se passe à l'Est en 1917 aura bien sûr des répercussions en Espagne. En 1921, se crée le Parti communiste, qui demeurera limité dans ses effectifs. En 1935, est créé le Parti ouvrier d'unification marxiste, le PUM, par des marxistes non-staliniens, souvent abusivement qualifiés de trotskistes, de peu d'influence sur l'Espagne, sauf en Catalogne où ils sont importants. Le journal monarchiste ABC du 27 décembre 1937 publie les effectifs de ces organisations. CNT, 1 577 000 adhérents. UGT, 1 444 000 adhérents. Parti socialiste ouvrier espagnol, 200 000 adhérents. Parti communiste espagnol, 13 000 adhérents. Ce qui montre, situation unique au monde, l'importance de l'anarcho-syndicalisme en Espagne, mouvement puissant qui réunit certainement les éléments les plus combatifs, les plus conscients, les plus déterminés du prolétariat espagnol.
Et quels sont leurs moyens d'action?
Depuis les années 1880 et sous l'influence de Kropotkine et de Malatesta, le mouvement anarchiste s'est tourné vers l'action directe en application de la stratégie de la propagande par le fait, qui considère qu'une action a beaucoup plus d'impact que la parole pour l'éveil des consciences et de la révolte.
Aujourd'hui, on les appellerait des terroristes.
On les appelait d'ailleurs effectivement des terroristes. Il se trouve que dans cette Espagne de la fin du 19e et du début du 20e, dans l'alternance libéraux-conservateur, l'Espagne a beaucoup de mal à se donner des institutions stables. Elle est soumise à l'intervention constante des militaires Et dans une situation économique et sociale très précaire, les conflits idéologiques s'exacerbent. La masse du peuple espagnol, paysans, journaliers, mineurs, ouvriers d'usine, est prolétarisée et se sent exclue de la communauté nationale. Et donc, à la violence institutionnelle répond la violence populaire, qui se nourrit d'un rejet de plus en plus virulent du modèle libéral parlementaire et de l'ordre établi, rejet qui conduira le prolétariat urbain et rural à une mobilisation politique en faveur de solutions révolutionnaires. Et donc, l'idée anarchiste est propagée de village, en Andalousie, en Aragon, en Catalogne en particulier. Les attentats, les émeutes, les grèves générales, les grèves insurrectionnelles se multiplient. Les vagues de répression sont terribles. En 1909, par exemple, la semaine tragique à Barcelone fera plus d'une centaine de morts, des centaines de prisonniers et une victime emblématique, le pédagogue anarchiste Francisco Ferrer Guardia, créateur en 1901 de l'école moderne, qui sera exécuté. 1916, 1917, 1919, 1920, émeutes, grève générale illimitée, on répond par des lois martiales, les patrons ont des milices de tueurs pour qui assassinent les représentants syndicaux les plus notoires ou les plus radicaux. Ceci, les syndicats, la CNT, la FAI répondent également par une série d'assassinats. Donc tout ça a représenté centaines de morts et des milliers d'arrestations. Après la proclamation de la République en 1931, les mobilisations sociales et les insurrections politiques de plus en plus graves vont se poursuivre avec une répression, ce qu'on sait moins, au moins aussi brutale que celle des régimes précédents. Par exemple, l'année 1933, donc, où l'on compte 14 millions de journées de grève, industrie et agriculture confondues, avec des épisodes spectaculaires de répression comme en janvier 1933, où des paysans révoltés sont massacrés à Casas Viejas dans la province de Cadix. Donc, la même année, en 1933, grève générale révolutionnaire très active en Aragon, avec églises et couvents incendiés, et proclamation du communisme libertaire dans certaines communes de la province de Huesca et de Teruel. Le solde, 87 morts et plus de 700 membres de la CNT emprisonnés. En octobre 1934, grève générale à Barcelone, Madrid, Valence et dans les Asturies. Dans les mines asturiennes, les ouvriers UGT, CNT prennent le pouvoir localement et instaurent un début d'ordre révolutionnaire. La répression d'une cruauté extrême fait près de 3000 morts, s'étend à toute l'Espagne, se traduit par des dizaines de milliers d'arrestations.
Est-ce que les anarchistes avaient pu anticiper ce qui va arriver 2 ans après la révolte en Asturie, par exemple ?
Oui, en effet. En mai 1936 qu'a lieu à Saragosse le 4e congrès national extraordinaire de la CNT, qui avertit en ouverture du congrès de l'imminence d'un putsch militaire et appelle à s'organiser tout de suite contre le déclenchement d'un possible conflit mondial. Ensuite, 2 motions importantes approuvées par les congressistes et qui traitent spécifiquement de la révolution. C'est-à-dire, on définit le concept confédéral du communisme libertaire et la proposition donc d'une alliance révolutionnaire, c'est le terme qui a été donné, avec l'autre grande force syndicale, l'Union Générale des Travailleurs, l'UGT donc.
Nous sommes une armée de rêveurs et pour cette raison nous sommes invincibles. Comment ne pas vaincre avec cette imagination qui emporte tout ? Nous ne pouvons pas perdre. Ou plutôt, nous ne méritons pas de perdre.
Jean Vaz Aranzaes
sur Radio Centrafrique.
Et la Deuxième République dont on a peu parlé, qui avait été proclamée en avril 31, a essayé d'apporter des débuts de solutions aux problèmes les plus urgents. Les inégalités criantes, l'éducation, la réforme agraire, l'élevage social, mais ça a été trop lent et ça s'est souvent fait dans l'insatisfaction des deux Espagnes qui s'opposent maintenant de manière violente. La victoire du Frente Popular aux élections législatives de février 36 va entraîner dès juillet 36, le soulèvement d'une partie de l'armée espagnole soutenue par cette Espagne qu'on a déjà nommée réactionnaire, fasciste et catholique.
Juste une petite question, Jean, est-ce que la CNT avait appelé à voter pour le Front Populaire ?
Oui, la CNT, à qui on avait reproché en 1933 d'avoir donné une consigne d'abstention, appelle à voter, ou du moins lève les consignes d'abstention pour les élections de février 36, ce qui expliquerait en partie que ces élections sont remportées par le Front Populaire.
D'accord, et donc on se retrouve au début juillet avec peut-être une... Comment on va anticiper ? Ils vont lancer un mot d'ordre de grève,
ouais. Dès le 18 juillet, donc dès le jour du soulèvement, la CNT et l'UGT lancent un mot d'ordre de grève général. À Barcelone, tous les quartiers ouvriers abritent des groupes de défense de la CNT de la FAI, des groupes de défense donc. Dès le 13 juillet, d'ailleurs, la CNT avait mis en place un comité de défense dans un quartier de Barcelone qui s'appelle Pueblo Nuevo. Les contacts avec la généralité, le gouvernement catalan, n'aboutissent pas à la distribution d'armes demandées. Dans ces conditions, le 18 juillet, les groupes de défense réquisitionnent armes et véhicules dans la ville. Le 19 juillet au matin, ce sont ces groupes de défense qui entraînent au combat contre les militaires factieux, les autres militants, puis le peuple. L'écrasement de la rébellion donc dans quelques très grandes villes, à Madrid, à Barcelone, à Valence, à Saint-Sébastien, à Gijón, à Malaga, constitue un échec majeur par rapport au plan de coup d'État prévu par le général Mola. Il y a plusieurs raisons certainement à ça, parce que par exemple l'armée et les forces policières sont divisées, c'est-à-dire qu'une partie de l'armée reste républicaine, tout comme une partie des forces policières de la Guardia Civil et des Guardias d'Assalto, des gardes d'assaut, restent fidèles à la République, mais on doit certainement cet écrasement immédiat du soulèvement à la détermination des organisations ouvrières et principalement aux groupes d'action anarchistes qui se sont opposés, les armes à la main, aux militaires factieux. Donc, c'est l'écroulement de l'État républicain qui va se produire, bien sûr, à la suite de ce coup d'État, va favoriser donc le déferlement d'une vague révolutionnaire dans toute la partie du territoire qui échappe aux putschistes. Pour ceux qui prenaient la révolution, il n'existe désormais plus aucun obstacle. Il s'agit de gagner la guerre et en même temps de faire la révolution, voilà. De gagner la guerre pour assurer le triomphe de la révolution, projet que ne partagent évidemment pas les partis républicains modérés, la majorité du Parti socialiste et le Parti communiste, à qui Moscou recommande de ménager les classes moyennes et de s'opposer à toute tentative révolutionnaire anarchiste.
Voilà, donc là c'est l'élément nouveau et important, faire la guerre au fascisme et en même temps essayer de démarrer...
Faire la révolution, parce que les deux vont ensemble, parce que la circonstance est particulièrement favorable, quoi, donc, hein. Et donc, dès le 21 juillet en Catalogne, se crée un comité central des milices antifascistes, dominé par la CNT. Il organise la mobilisation, le recrutement et l'équipement des milices envoyées reconquérir Saragosse, tombée aux mains des rebelles.
Buenaventura Burruti. Attention, attention. En estos momentos históricos, en estas horas decisivas, multiplicados por el furor y el entusiasmo, los bravos hombres del pueblo que han reducido al ejército en Barcelona se disponen a marchar sobre Zaragoza en auxilio de sus hermanos aragoneses. El 19 de julio marcará el comienzo de una nueva era. La paz del pasado ya no existe. Estamos gestando entre ríos de sangre una España nueva.
¡Viva la paz y por la revolución!
¡Viva!
Dissonance.
Jean Vas Aranzaes
sur Radio Centrafrique.
Donc, de Barcelone et de Valence, dès le 24 juillet, 12 colonnes anarchistes, 2 communistes, 1 du Poum et 1 catalaniste partent sur l'Aragon sur un front de presque 600 km. La révolution, dont le premier acte a été la résistance victorieuse au coup d'État dès le 19 juillet, entreprend de mettre en marche l'utopie qui, tout en transformant radicalement le système social, soutiendra efficacement l'effort de guerre. C'est ce qui est très souvent mis en question par ceux qui passent très vite sur cette expérience révolutionnaire, c'est que l'objectif, effectivement, c'est de soutenir l'effort de guerre sur tous les plans, et en particulier sur le plan alimentaire, hein, sur le plan de l'intendance. Donc c'est une tentative de révolution profonde, unique en Europe. Dans de très nombreuses localités de Catalogne, d'Aragon, du Levant ou d'Andalousie, on procède à la collectivisation des terres, à la collectivisation des moyens de production, des services, de l'eau, de l'électricité, des services urbains, les tramways, le bus, le métro, les hôtels, les restaurants, les cinémas, etc. Sur le plan de la collectivisation agraire, on va créer près de 1500 collectivités agraires, dont 450 en Aragon, 400 en Catalogne, 250 en Andalousie, puis moins Valence, Alicante et Alcoy, où la résistance aux collectivisations est un peu plus importante. On compte, c'est variable bien sûr, mais on compte environ 1000 membres par collectivité. L'exemple du Conseil d'Aragon illustre assez bien ce qu'a été cette révolution en marche et comment elle a été brisée par un gouvernement central qui a retrouvé du pouvoir en grande partie grâce à l'ascension du Parti communiste espagnol, qui passera de quelques dizaines de milliers d'adhérents à près de 300 000 en 1938. En octobre 1936, le Conseil d'Aragon donc est officiellement créé, exclusivement libertaire jusqu'en décembre 1936. Il est pluraliste de décembre 36 à août 37 avec 7 conseillers CNT et 6 fronts populaires, dont 2 gauches républicaines, 2 unions générales des travailleurs et 2 partis communistes. Le 4 janvier 1937, un décret du chef du gouvernement, Largo Caballero, crée les conseils municipaux. On a souvent tendance aussi à oublier que le Conseil d'Aragon et la collectivisation de l'industrie en particulier à Barcelone ont été légalisés par des décrets gouvernementaux. On pense que c'est une expérience qui se fait en dehors complètement des institutions gouvernementales, mais non, elles ont été légalisées à la fois pour l'Aragon et pour la Catalogne. Donc, ce décret de Largo Caballero qui crée les conseils municipaux donne des résultats qui montrent encore une fois l'enracinement des idées libertaires en Aragon, puisque la CNT obtient 1220 conseillers, l'UGT 644, la gauche républicaine 214 et le Parti communiste 18. Tout ça, c'est parce que quand on conteste le rapport, ce qu'est alors le rapport de force entre ce mouvement libertaire qui est extrêmement important et un parti communiste qui a encore jusque-là très peu d'influence sur la marche. Ça va beaucoup changer en peu de temps. Donc, sur les 500 000 habitants que compte l'Aragon, on considère que près de 300 000 adhèrent à la collectivisation des terres. Et malgré ce qu'a pu dire la propagande communiste qui a tapé très fort sur l'obligation qui était faite au village d'adhérer à la collectivisation, non, on a de très nombreux témoignages qui montrent que dans la très grande majorité, l'adhésion s'est faite avec enthousiasme à la collectivisation, d'autant qu'en Aragon, déjà bien avant, dans les années précédentes, des communes s'étaient proclamées communes libertaires ou communes libres. Donc, avant 36, oui. D'accord. Par exemple, en 33, il y avait déjà des communes libres à Teruel, à la Fresnay, dans plusieurs villages de la province de Teruel. J'insiste un peu sur le fait, parce qu'encore une fois, la propagande communiste a dit que ça s'est fait à coup de baïonnette, la collectivisation, ce qui est faux, mais encore une fois, on a les historiens ont recueilli des tas de témoignages, et puis moi, personnellement, j'ai lu quantité de livres et connu quantité de gens qui ont vécu jeunes ces collectivisations et qui témoignent d'un énorme enthousiasme. Et donc, il n'y a pas. C'est un peu la scène qu'on retrouve.
Dans Land in Freedom, là. Dans Land in Freedom,
effectivement, dans l'assemblée du village où s'opposent effectivement ceux qui veulent collectiviser et ceux qui ne souhaitent pas collectiviser. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a eu, dans la province de Teruel en particulier, une application intégrale du communisme libertaire dans certains villages. C'est-à-dire avec suppression de l'argent, etc. Mais dans beaucoup de fédérations de collectivités, quand une partie de la population n'a pas adhéré, ben ça a été respecté. Hein. Mais très globalement, beaucoup, dans la plupart des villages, la très grande majorité, mais on a respecté les gens qui voulaient garder leur lopette de terre.
Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Voilà que d'autres bras tendus s'en vont strier nos aubes claires. Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter des pendus au couchant d'une autre après-guerre, et vous saluerez des drapeaux en priant debout sans vergogne. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. La nouvelle chassette ouverte, cachons nos rires basanés. Les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entrouvertes, un ordre viendra les souder. Des gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds. Je crie pour me massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie, et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie, les bruits de bottes de l'histoire n'éveillent pas vos souvenirs. Amis de sous la cendre, le feu a tout brûlé. La nuit pourrait descendre dessus nos habitués. Ah, je crie.
L'autogestion s'est organisée sous plusieurs formes, hein. Parfois, donc, ce que je disais à l'instant, sous la forme intégrale du communisme libertaire, donc avec disparition de l'argent et répartition des ressources selon le principe de à chacun selon ses besoins. Donc ça, dans plusieurs fédérations de villages de la province de Teruel. Dans d'autres, comme dans la province de Huesca, par exemple, où il y a eu énormément de collectivisation, avec partage des tâches, salaire égal pour les hommes, salaire égal pour les femmes, salaire égal pour les enfants de moins de 14 ans. À Angoues, par exemple, près du front de Huesca, la Fédération cantonale des collectivités, qui regroupe 47 villages gérés par les syndicats CNT et UGT, ne supprime pas la monnaie nationale, mais applique tous les principes égalitaires prônés par l'idéal révolutionnaire. À Monthon, toujours dans la province de Huesca, le canton collectivisé regroupe 32 villages. L'instance décisionnelle pour résoudre les problèmes reste l'assemblée du village. C'est en assemblée qu'on divise le territoire d'une municipalité en districts, qu'on nomme les groupes de travail et leurs délégués, qui se réunissent chaque soir avec le comité du village. L'assemblée peut être quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle. D'un point de vue strictement économique, on peut dire que dans l'ensemble, les collectivités eurent une influence positive sur l'augmentation de la productivité, ce que met en question aussi toute la propagande communiste qui dit que c'est catastrophique. C'est un peu plus compliqué dans l'industrie, hein, mais sur le plan des collectivités agraires, on a constaté une augmentation de la productivité, et ce pour deux ou trois raisons. Par exemple, dans le canton de Monthon, et c'est un témoignage, la récolte de 1937 augmenta de 30% par rapport à celle de 1936. Et ce résultat s'obtient pourtant avec une moindre main-d'œuvre, puisque
les hommes étaient au front.
Les hommes sont au front, la plupart des paysans étaient au front, mais il n'y a pas eu de miracle, mais simplement une utilisation rationnelle des moyens de production. Et une très, très forte envie, bien sûr, de réussir. Les vieux donnaient un coup de main pour pallier l'absence des paysans partis à la guerre, les jeunes aussi, les femmes également. En plus de ce travail quotidien, dans le canton de Monthon, par exemple, les collectivistes créèrent de nombreuses granges avec des enclos pour les porcs, les lapins, les poules. Ça est un témoignage de quelqu'un, de Félix Carrasquer, qui a vécu cette collectivisation à Monthon. Ils installèrent également l'électricité dans 14 villages qui en étaient dépourvus et le téléphone dans une douzaine. Ils construisirent un hôpital de 40 lits à Binéfar. Autrement dit, non seulement la productivité des terres augmenta sous la Révolution, mais les infrastructures aussi. Et à Monthon, c'est assez original aussi, s'est créée une école des militants dont le but était de former des adolescents des deux sexes de 13 à 17 ans, de les former aux techniques agricoles et aux tâches administratives et comptables. Donc une école assez unique par sa pratique totalement autogestionnaire et son projet pédagogique.
Et dans d'autres secteurs que l'agriculture, comment sont déroulées les collectivisations?
Alors, dans l'industrie, ça a été en Catalogne très vite. Donc, on a collectivisé les services, les usines. Mais dans l'industrie, et en Catalogne en particulier, parce que c'est là qu'ont eu lieu les principales collectivisations dans l'industrie, les problèmes qui se présentaient aux ouvriers révolutionnaires étaient plus complexes que ceux qu'affrontaient les paysans. Trop de facteurs échappaient à leur contrôle pour que la révolution dans l'industrie puisse être aussi complète que celle de la terre. Il fallait créer une industrie de guerre, importer des machines spéciales, assurer la transformation des usines et l'adaptation des ouvriers à un nouveau travail, créer une industrie chimique, fabriquer beaucoup d'articles qui n'avaient jamais été produits en Espagne, comme les automobiles, les autocars, etc. Il y avait ensuite l'interférence de trop nombreux conseils. Le conseil des entreprises qui était nommé par les travailleurs eux-mêmes, mais un conseil économique avec un contrôleur nommé par la généralité, qui est le gouvernement catalan, un conseil général de l'industrie également dépendant du gouvernement catalan, et donc, bien que légalisé par un décret de la généralité d'octobre 36, l'interférence gouvernementale de Barcelone et Madrid pour les quelques usines ou services collectivisés réussit à limiter le développement de l'expérience de collectivisation de l'industrie.
Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama al deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y valor. Alta la bandera revolucionaria que llevará el pueblo a la emancipación. Alta la bandera revolucionaria que llevará el pueblo a la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. La, 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 la.
Dissonance.
Jean Vas Aranzales.
Sur Radio Centrafrique.
Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais il me semble qu'il y a un texte de loi, un décret qui, dès 38, met fin à cette expérience de collectivisation sous la forte emprise de ce qu'on pourrait appeler les communistes staliniens qui sont sous la mainmise de la Russie. Comment on peut expliquer qu'en 2 ans, le PCE, le Parti communiste espagnol, finit par avoir une aussi grosse influence qui puisse empêcher cette révolution?
Oui, il faut peut-être repartir à la décision d'intervention de l'Union soviétique qui n'est pas allée de soi dès le départ, puisque au départ l'Union soviétique signe le pacte de non-intervention, hein, parce qu'elle souhaite renforcer sa position auprès des démocraties occidentales pour essayer ensemble de faire bloc face à la montée du totalitarisme nazi. Donc c'est l'accord avec Londres et Paris pour peser en quelque sorte sur Berlin. Puis l'Union soviétique décide d'apporter son appui à la République espagnole, après s'être assuré quand même que l'intervention serait payée d'avance par les 500, les chiffres vont de 400 à 500, les 400 ou 500 tonnes d'or de la Banque d'Espagne qui sont acheminées en camion et en bateau vers l'Union soviétique.
Et qu'on n'a jamais retrouvé.
Et non, ça a été le paiement de l'aide militaire soviétique. En septembre 36, donc, arrivent les premières livraisons d'armes soviétiques et les conseils militaires, les conseillers et les commissaires politiques du GPU, du NKVD, en gros 2000 consignes militaires sur la durée de la guerre. Les consignes de Moscou sont claires, parce que c'est de là qu'il faut partir, puisque le Parti communiste espagnol qui est balbutiant en 36, il est complètement inféodé aux consignes de Moscou. Donc les consignes de Moscou sont claires, respect de la démocratie bourgeoise, pas de vagues, union dans les fronts populaires, discréditer les révolutionnaires espagnols en les présentant comme des alliés objectifs du fascisme, et détruire les collectivisations en rétablissant la légalité républicaine, en gagnant la guerre et voir ensuite, après la victoire, si le Parti communiste espagnol est en mesure de prendre le pouvoir. Mais ça reste très, très lointain comme objectif. Donc, pourquoi le Parti communiste se développe aussi vite? C'est que le prestige de l'URSS, la révolution, une autre révolution, la vision quotidienne de ses armes, la volonté des communistes de reconstruire l'autorité de l'État en s'opposant aux expériences révolutionnaires qui effrayaient les partis modérés, et la volonté de créer une armée hiérarchisée, disciplinée, en militarisant les milices, vont susciter une croissance importante du PCE et du PSUC, qui est le Parti Socialiste Unifié Catalan, communiste aussi, en Catalogne, donc, et une influence grandissante dans la conduite de la politique républicaine. Les communistes espagnols ne recherchent pas la conquête directe du pouvoir, mais le contrôle de ses instruments, en s'assurant de la police politique, le CIM, Service d'Information Militaire, de la Direction de la Sécurité et du contrôle des chefs de corps et commissaires des armées.
Ils étaient beaucoup aidés dans cela par les conseillers soviétiques qui avaient une forte expérience aussi dans ce domaine-là.
Bien sûr, une très grande expérience, puisque en 37, là, c'est la grande année des purges staliniennes où vont disparaître 800 000 personnes en Union soviétique. Dès le 17 juillet 1936, Moscou avait recommandé au Parti communiste espagnol, et je cite, d'adopter de toute urgence des mesures préventives contre les tentatives de sabotage des anarchistes derrière qui se cachent les fascistes.
C'est éloquent, oui.
Et le 16 décembre 1936, la Pravda déclare, et je cite là aussi, en Catalogne, l'élimination des trotskistes et des anarcho-syndicalistes est commencée. Elle sera menée avec la même énergie qu'en URSS.
Oui.
Donc on voit bien quel est l'objectif. Et ça pose des questions sur l'intervention par rapport à la défense elle-même de la République, dont on ne peut pas douter pour ce qui est des communistes espagnols. Merci. Mais sur l'objectif final de l'Union soviétique, on est en droit de se poser des questions. Et donc, dans les premiers mois de guerre sociale et politique, c'est une guerre qui a autant de fronts qu'il y a de villes et de villages. Dès le départ, en juillet, août, septembre 36, la CNTFA est souvent la force prépondérante. C'est cette force qui va être remise en question par la volonté de centralisation du gouvernement central, où siègent pourtant quatre ministres anarchistes, et on peut en parler un peu,
oui,
dont Federica Montseny,
qui est enterré à Toulouse,
qui a passé son exil à Toulouse, qui est enterré à Toulouse, et qui était à ce moment-là ministre de la Santé, et qui, entre autres mesures, instituera le droit à l'avortement, ce qui est un peu avant-gardiste par rapport à la société espagnole d'alors, et même à la société européenne moment-là. Donc, ces quatre ministres, on en reparlera un peu, parce que oui, ça pose un problème, la participation des anarchistes en gouvernement. Le gouvernement catalan, où il y a également trois ministres anarchistes. Et donc, pour le gouvernement, la militarisation des milices, le gouvernement souhaite une militarisation des milices et souhaite des nationalisations plutôt, bien sûr, que ces collectivisations qui sont en marche. Parce que cette volonté de centralisation, elle passe par la militarisation et par la nationalisation.
La reprise en main qu'on voit bien dans le film de Ken Loach à un moment.
Et oui. Et donc la plupart des dirigeants anarchistes ne veulent pas abandonner. Pourquoi ces dirigeants anarchistes dans les gouvernements, chose qui paraît antinomique avec l'anti-étatisme, l'anti-parlementarisme des anarchistes. Mais ils ne veulent pas abandonner tout le pouvoir aux autres forces politiques. Ils défendent une forme, on va dire, d'unité et de collaboration avec les différents partis et organisations syndicales. Ça, les dirigeants. Pour la base anarchiste, qui est très importante, cette participation au gouvernement catalan et au gouvernement central est une grave entorse au principe même de l'anarcho-syndicalisme. Et ces divergences profondes laisseront évidemment des traces
oui,
longtemps.
Ça fait encore des débats aujourd'hui.
Ah oui, mais, oui, parce que ça reste évidemment quelque chose de. Mais il faut, moi, je n'entre pas dans la justification des uns et des autres, mais il faut se remettre dans le contexte de voilà de ces années 36, 37, hein, qui est un contexte très très complexe en fait. Et donc ces communistes qui entrent de plus en plus, qui prennent du pouvoir dans les gouvernements à la fois catalans et central, vont aller plus vite et plus loin. Hein. Le 3 mai 1937, le gouvernement catalan, fortement appuyé par le PSUC, qui est le Parti communiste catalan, à Barcelone, lance l'attaque contre le central téléphonique et tous les points névralgiques tenus par la CNT. Les affrontements armés vont durer plusieurs jours et faire plusieurs centaines de morts. Les anarchistes, surtout en Catalogne, avaient une force très importante. Ils ont très vite élevé des barricades dans toute la ville. Et ils pouvaient gagner certainement ces combats-là, parce qu'ils étaient plus nombreux, plus organisés, malgré la présence des gardes d'assaut, etc., puisqu'on envoie les forces de l'ordre, qui presque toutes, d'ailleurs, en Catalogne, sont dirigées par des membres du PSUC, du Parti communiste catalan. Mais les dirigeants anarchistes, dont García Oliver et Federica Montseny d'ailleurs,
ministre, oui.
Pour ne pas voir se développer une guerre dans la guerre, vont appeler au calme, à l'arrêt des combats, au cessez-le-feu.
Ça peut être considéré comme un tournant dans cette aventure libertaire.
C'est peut-être un tournant parce que à la suite de cette défaite entre guillemets de la CNT sur Barcelone, de très nombreux militants anarchistes les plus radicaux vont être arrêtés. C'est donc bien le début de l'échec de la révolution sociale, ce qui va provoquer une déception profonde pour de nombreux militants et de nombreuses fractures. Dans le mouvement libertaire, c'est le début de la fin, de l'expérience. Ça va se préciser puisque cette mise au pas de la CNT va se poursuivre en août 37 par la dissolution du Conseil d'Aragon et la destruction violente des collectivités aragonaises. Donc le 4 août, Indalecio Prieto, qui est le ministre de la Défense, envoie la 11e division du général communiste Lister en manœuvre en Aragon, appuyé par d'autres divisions au commandement également communiste, Lister impose une occupation militaire dans tout l'Aragon, une occupation violente. C'est une anecdote, mais à Caspe, qui était le siège du... Caspe, qui était le siège du Conseil d'Aragon, puisque les trois capitales de province aragonaise étaient aux mains des rebelles, donc Huesca, Zaragoza et Teruel, donc le Conseil d'Aragon s'était établi à Caspe, dans la province de Zaragoza. Lorsque rentrent les hommes de la division Lister à Caspe, baïonnettes au canon, détruisant tout ce qui pouvait être des symboles des collectivisations, un soldat dans les bureaux du Conseil d'Aragon, il y avait un immense portrait de Durruti, dont on ne saura jamais d'ailleurs comment il a disparu en novembre 36 sur le front de Madrid, comment il a été tué. On n'a jamais tellement éclairci la mort de Durruti, qui était une figure emblématique bien sûr de l'anarchisme. Eh bien, un soldat avec sa baïonnette déchire complètement le portrait de Durruti en disant « Fascista, como vosotros todos !» Fasciste, comme vous tous ici. Donc ça montre à quel point l'antagonisme entre communistes et anarchistes, antagonisme qui se prolonge peut-être même jusqu'à aujourd'hui dans les générations qui ont suivi, est fondé quand même sur une histoire qui est très très violente. Très violente. Donc certaines divisions anarchistes à ce moment-là qui sont au front veulent s'opposer au démantèlement des collectivités, mais elles recevront de la part toujours pareil des dirigeants anarchistes l'ordre de ne pas quitter le front. Et donc des centaines de militants anarchistes sont arrêtés, certains disparaîtront, on ne saura pas. Et le 18 août, le gouvernement Négrin promulgue le décret de dissolution du Conseil d'Aragon. Malgré ça, et ça montre à quel point beaucoup avaient adhéré au principe même, à cette base même de la collectivisation et du communisme libertaire, dans certains villages, sur Huesca et sur Teruel, les collectivités se reconstitueront, mais bon, ça sera très éphémère, mais vous voulez poursuivre la... Malgré cette volonté d'en reconstituer quelques-unes, août 37 marque la fin de la révolution sociale, et même si la CNT reste une composante essentielle du camp antifranquiste, elle est en quelque sorte normalisée. L'expression n'est pas de moi, elle est de Godichaud peut-être. Elle est normalisée. C'est la fin de l'utopie en marche. Beaucoup de militants voient mal l'intérêt d'une guerre sans la révolution, et c'est vrai que certains quitteront même le front, se replieront vers la région de Barcelone, quitteront le front où domine maintenant la discipline et la police politique communiste.
Et certains continueront aussi le combat au sein de milices ou de divisions anarchistes, comme ton père.
Bien sûr. Mais mon père tient, puisqu'on parle, mon père qui était commissaire dans une division anarchiste.
Jusqu'à la fin de la guerre.
Jusqu'à la fin de la guerre, qui n'a jamais porté l'uniforme d'ailleurs, m'a souvent raconté que lorsqu'il devait quitter le front pour se rendre à des réunions d'intendance, à l'arrière-garde, lorsqu'il revenait au front la nuit, je vais vous le dire en espagnol, il était mis à mas à las balas comunistas qu'à las balas fascistas.
Il craignait davantage les balles communistes que les balles fascistes.
En effet. Donc c'est dire à quel point on était arrivé. Hein. Donc voilà, Godichaud, dont je disais un mot là, oui. À qui j'avais emprunté normalisé, oui. Dans un article de la revue L'Histoire de septembre 2016, nous dit clairement que l'aide soviétique n'eut pas que des effets militaires, mais qu'elle permit aussi au gouvernement républicain de s'imposer contre les forces révolutionnaires.
Il y en a pas sous sang, et pourtant ils existent, la plupart espagnols, à ne savoir pourquoi.
Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées.
Il y en a pas sur 100 et pourtant ils existent. La plupart fils de rien.
Pour que dalle et pourquoi, avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec les rentes qui fait le sang versé. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore.
Et elle a pas sur sang, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les anarchistes,
ils ont le drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, un couteau pour trancher le pain de l'amitié et des âmes rouillées pour ne pas oublier. Il n'y en a pas un sur cent, et pourtant ils existent.
Et qu'ils se tiennent bien.
Donc Jean, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces quelques mois de révolution sociale en Espagne ?
On peut d'abord rappeler que c'est une situation, c'est une époque complexe. Oui. C'est une époque complexe où s'entremêle cette utopie, cette magnifique utopie, puis le retour à la raison d'État. C'est une époque où certaines stratégies de collaboration adoptées par les dirigeants anarchistes ont souvent semé le trouble et parfois la division dans la masse des militants. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que cette révolution sociale a été une réalité, ce que nie toute l'histoire officielle, a été une réalité pendant un an. Et même si l'histoire officielle a toujours essayé de l'effacer, elle a eu lieu. Elle a eu lieu. Hein. Et ce temps-là, pour moi et pour beaucoup d'autres, est irréductible.
Merci à Jean Vaz Aranzaez.
Il était à Teruel et à Guadalajara, Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama. Qui a gagné, qui a perdu, nul ne le sait, nul ne l'a su. Qui s'en souvient encore, faudrait le demander aux morts. J'étais pas gros, je vous le dis, les yeux encore ensommeillés. Mon père sur une chaise assis, les pieds, les mains attachés. Et j'avais peur et j'avais froid, un homme m'a dit calme-toi. Un homme qui était différent, sans armes, il portait des gants, une cravache qui lui donnait un air. Un peu de sang coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid, l'homme m'a dit écoute-moi. Je vais te poser une question, la vie de ton père en répond. Dis-moi quelle est la capitale, voyons, de l'Australie australe. Je ne risquais pas de me tromper, on ne m'avait jamais parlé des grandes villes qui ont des noms si fiers. Une larme coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid, j'ai dû pleurer aussi, je crois. Mais l'homme a eu comme un sourire, et puis je l'ai entendu dire. C'est un brave homme, coupez ses liens, ton enfant tu l'éduques bien. Car tu as le sens du devoir, chacun a son dû et son savoir. Ils sont partis au petit matin clair. J'ai couru me blottir dans les bras de mon père. M'a serré fort contre lui, j'ai honte, tu sais mon petit. Je me demandais cette guerre, pour quelle raison j'irais la faire. Mais maintenant je puis le dire, pour que tu saches lire et écrire. J'aurais voulu le retenir, alors mon père m'a dit mourir. Pour des idées ça n'est qu'un accident. Je sais lire et écrire.
Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission en vous rendant sur le site internet de Radio Sainte-Afrique, page Dissonance. Vous y trouverez aussi des liens qui complètent cette émission, ainsi que les références des musiques et chansons entendues. Cette émission sera rediffusée lundi 26 décembre à 20h et mercredi 28 décembre à 11h. Bonne année 2017. Merci pour votre écoute. Au mois prochain.
Salut et fraternité.